Nous sommes dans ce temps de Pâques et les évangiles racontent tous la rencontre du Christ ressuscité au matin de Pâques. Mais chacun, si vous lisez les quatre évangiles, c'est très étrange. Les quatre évangiles ont un angle pour témoigner de cet événement très différent. Même les évangiles synoptiques, qui d'habitude sont assez, je dirais, semblables, ont, au moment du témoignage de la résurrection, une présentation qui est vraiment différente. Il y a plein de détails qui diffèrent, qui sont un petit peu avec un éclairage différent. Et je dirais même qu'il y a un élément qui semble prépondérant dans ce message de Pâques, c'est que les évangiles sont restés silencieux sur la résurrection. Les évangiles ne nous disent rien de la résurrection. Ils nous rapportent uniquement les rencontres des femmes au tombeau, des disciples, mais avec le ressuscité. Et c'est un professeur d'exégèse qui disait « Il n'y a pas de témoin de la résurrection. Il y a seulement des témoins du ressuscité. » On aurait aimé avoir dans les évangiles un récit qui nous dise comment ça s'est passé, voir le passage de la mort à la vie. Non, rien dans les évangiles nous parle de cela. Parce que la résurrection dépasse toute expérience humaine. Elle est un peu comme la création dont nous constatons le résultat, sans que personne ait été témoin de l'acte créateur. Le comment il est ressuscité nous échappe totalement. L'évangile de Jean situe la scène du matin de Pâques dans un jardin. C'est le seul qui apporte ce côté, je dirais, informatif, dans un jardin. Vous lisez ça dans l'évangile de Jean. Moi, je ne peux pas lire cela sans faire référence à une volonté très forte de l'évangéliste Jean de mettre cela en lien avec le jardin d'Éden. Il n'y a pas de hasard dans la manière dont Jean raconte aussi ce récit de la résurrection. Il place la fin de l'évangile et la résurrection dans un jardin. Parce que l'évangile de Jean commence par ce mot « au commencement ». Était la parole, au commencement. Et vous savez quel est le livre de la Bible qui commence par les mêmes mots en hébreu ? Bereshit, au commencement. Dans l'évangile de Jean, il y a au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cela renvoie bien évidemment au texte de la Genèse qui dit au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Et lorsque le livre de la Genèse commence en disant « Voici la création », j'ai envie de dire que dans ce deuxième jardin où est le tombeau, c'est aussi un commencement. Le commencement d'une vie nouvelle. Le commencement du salut. Réglé d'une manière forte, définitive. Dans ce jardin, où est le tombeau de Christ, il y a des femmes, et les anges, dans un des évangiles, disent « Vous cherchez Jésus. » Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, quand l'homme s'est séparé de Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. « Où es-tu ? » Et dans le jardin où est le tombeau du Christ, ce sont les anges qui disent aux femmes « Vous le cherchez. » Parce que quelque part, ils disent aussi, quand dans le jardin d'Éden, Dieu cherchait l'homme pécheur, dans ce jardin où le tombeau est vide, Dieu a trouvé l'homme en Jésus-Christ. Il ne le cherche plus, il l'a trouvé en Jésus-Christ. Il dit, je t'ai cherché et je te trouve, mais toi, est-ce que tu me cherches? Vous cherchez Jésus, il n'est pas là. Je vais vous dire où il est. Ces deux jardins se font une réponse l'un à l'autre. le jardin où le tombeau est vide est effectivement le jardin d'un commencement nouveau, celui où une œuvre a été réalisée. Nous avons eu la lecture de Pâques vendredi soir, et j'avais préparé des textes que plusieurs devaient lire, uniquement des textes à lire. On a cette habitude ici à Lorient que les catholiques, les protestants réformés et nous-mêmes nous retrouvions pour lire l'Évangile au moment de la passion du Christ, de cette montée vers Golgotha. Et puis, j'avais relu tout le texte en vérifiant bien que tous les versets étaient présents, qu'il n'y aurait pas d'erreur de verset. Et puis, il y a Michel qui m'a envoyé un mail en me disant « Écoute, il y a quelque chose qui me dérange dans la traduction. » Moi, j'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, ce texte-là, il y a un verset qui est dérangeant. » C'est qu'au moment où Christ est sur la croix, la traduction que j'avais retenue il y a 5 ans, à peu près, disait « Tout est fini. » Quand Jésus est sur la croix, Christ dit ces mots « Tout est fini. » Et il me dit, dans son mail, il me dit « Ça me dérange parce que c'est pas pareil que tout est accompli. » Et je me suis dit, il me dit, je ne sais pas quels sont les textes, les termes grecs qui ont donné cette traduction. Alors moi, je suis allé vérifier. Et puis, effectivement, j'ai dû me rendre compte que Michel avait raison. C'est que, quand je dis Michel, c'est celui qui est là, hein, pas celui qui est absent. Mais quand il m'a fait cette remarque-là, effectivement, il y a une variante, c'est que le terme téléomai, le verbe, est un verbe qui parle de quelque chose qui commence, qui s'achève, mais qui est entier. Tout est accompli, c'est différent que tout est fini. Parce que quand dans tout est fini, on ne parle pas d'une action qui a commencé, qui est terminée, qui est complète. Alors que tout est accompli ou tout est achevé, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui est commencé et qui est terminé. Et c'est quelque chose d'important dans le cri de Christ sur la croix. Et là, je me suis dit, mais cette remarque est tout à fait pertinente. Alors j'ai envoyé un mail à tout le monde pour dire que je refaisais le texte et que si tout le monde était d'accord, suite à une remarque, je changeais le texte sur ce verset-là et que nous dirions bien « tout est accompli ». Bon, il y a eu un petit couac parce que la personne qui lisait ce petit passage a oublié de lire, avait sorti son texte avant que je fasse la remarque, et quand il a pris la parole, il a dit « Tout est fini ». Comme quoi, malgré les efforts des uns et des autres, on peut avoir la fragilité humaine qui fasse qu'on ne puisse pas dire ce qui semble important et juste. Mais le « tout est accompli » renvoie à cela. Du jardin d'Éden où Dieu cherche l'homme, jusqu'au jardin du tombeau où Christ est ressuscité, tout est accompli. Pas simplement, je dirais, au moment où Jésus est sorti, mais du moment où l'homme se sépare de Dieu jusqu'au celui où Christ est ressuscité, tout commence là, dans ce jardin d'Éden. Tout s'achève dans ce jardin où est le tombeau et tout est achevé. Et si vous lisez les évangiles, vous serez étonné de voir le nombre de fois où il est dit « afin que s'accomplisse l'Écriture ». Dans ses moindres détails, à la fois la question des jambes qui sont brisées aux deux brigands mais pas aux siens, dans le psaume 22, aucun de ses os ne sera brisé. À la fois où il est percé, il est dit qu'il sera percé. Transpercé, à la fois la question du vinaigre qui est donné pour étancher entre guillemets la soif ou anesthésier la douleur, afin que s'accomplisse l'Écriture. Et effectivement, le terme qui convient, c'est que tout est accompli depuis le moment où Dieu, dans le jardin d'Éden, condamne le serpent en lui disant « Je mettrai inimitié entre la descendance de la femme » Celle-ci t'écrasera la tête, à toi le serpent, même si tu lui mords le talon. Et à la croix, Christ, même si Satan a eu le sentiment de remporter une victoire, à la croix, Christ a écrasé une fois pour toutes la tête du serpent qui ne le savait pas encore, mais qui est définitivement vaincu. Même si Satan lui a mordu le talon et que pendant 3 jours, il a été enseveli. Mais la victoire est à Christ et toute est accompli. Alors, si j'avais un titre à donner à ce temps de méditation et de partage, ce serait celui-ci. C'est Pâques, deux points. Il y a des témoins. Un peu comme pour un accident, vous savez. Quand il y a un accident quelque part, la première chose qu'on cherche, c'est des témoins. J'allais à un conseil national dans le sud de la France il y a 2 ans. Et je roulais derrière une voiture, j'avais des distances réglementaires, et à un moment donné, il y a une voiture mais qui est arrivée à une vitesse folle, qui m'a doublé, qui a doublé celle qui était devant moi, mais qui s'est rabattue quasiment devant elle. Ce qui fait que la voiture devant moi l'a percutée et que les deux voitures n'ont pas fait de tonneau, mais ont été complètement détruites. Alors je me suis arrêté devant pour voir les personnes, pour savoir s'il y avait des victimes. Fort heureusement, aucune victime, mais il y avait 2 jeunes qui étaient dans leur voiture complètement détruites, complètement sonnées. Ils descendaient dans le sud et là, ils étaient complètement hébétés. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des témoins ? Alors, je les ai aidés à sortir de leur voiture, on s'est mis sur le côté, il y avait des débris partout. L'autre qui sortait, qui avait coupé la route, est sorti en tongs, en disant « Mais il s'est passé quelque chose !» essayant de se dédouaner de sa responsabilité. Mais la question, c'est qui a été témoin ? Et moi, j'ai dit « Écoutez, je vous donne mon numéro de téléphone, je suis témoin de ce qui s'est passé. » La résurrection, est-ce qu'il y a des témoins ? Oh, il y en a eu plein des témoins à la résurrection. C'est quelque chose qui s'est passé où il y a eu du monde. Pas simplement ceux qu'on a l'habitude de voir. Il y a des témoins parce que il y avait une foule qui était là. Il est dit dans Matthieu, au chapitre 26, verset 55, à ce moment, au moment où Jésus est arrêté, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. La foule qui est là, qui avait accueilli Jésus en mettant des palmes sous les pieds de l'anon qui le portait, qui l'accueillirent en chantant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », cette même foule, quelques heures plus tard, se ligue contre lui, accompagne les gardes de Anne et de Caïphe, les souverains sacrificateurs, pour son arrestation. La foule est là pour témoigner de son désir de rejet. Et j'irais même plus, son désir d'éliminer Jésus. Et j'ai envie de dire, quand je vois cette foule qui se presse pour accompagner le rejet du Christ, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas très très éloignés de la situation de ce monde aujourd'hui. Le monde est dans un rejet catégorique de Christ. Oh, bien sûr, je me rappelle de chœurs qu'on avait dans les feux de camp de scouts, etc., il y a 50 ans, où on mettait, ça m'a toujours dérangé, il y avait un chant qui disait « Jésus, Gandhi et Luther King », les présentant comme des modèles de sagesse, des personnalités qui étaient à suivre, à écouter. Et moi, quand mettre Jésus-Christ à côté de Gandhi, même de Martin Luther King, bon pasteur baptiste, au demeurant, ça me dérangeait, parce que je ne crois pas qu'il soit au même niveau. Il y en a un qui s'est donné, qui est mort sur la croix pour le monde tout entier et pour tous les temps à venir. Mais je crois qu'aujourd'hui, la tentation est grande que la foule diminue le sens qui se trouve en Jésus-Christ pour l'humanité. La foule, dans la Bible, c'est toujours un symbole du monde sans Dieu. Le monde sans Dieu, lorsqu'il est parlé, y compris dans les paraboles d'une foule, c'est toujours le monde sans Dieu. Dans les psaumes, la foule, souvent, représente ce monde qui s'oppose à Dieu. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, quand j'écoute les interventions des uns et des autres, j'étais une fois hospitalisé il y a 2-3 ans, et une amie proche m'avait offert des livres, et j'avais un livre avec moi aussi de Luc Ferry, hein, qui est philosophe, et je lisais une petite approche de la philosophie. Ce qui m'a étonné, c'est dans le ton de ce livre, l'auteur pointait comme quelque chose de totalement absurde le fait de croire en Jésus-Christ. Et que la foi quelle qu'elle soit, mais en plus la foi chrétienne, ne pouvait être qu'une absurdité qui conduise à la perte de la liberté de l'homme. Le monde, la foule. Dans les derniers temps, est-il dit, le monde sera dans un rejet systématique de Christ et du salut qu'il accorde à Golgotha. Et nous sommes déjà dans ces temps de la fin. Et nous le voyons bien. Quelqu'un disait, voilà, quand on parle de Jésus, quand on parle et qu'on annonce la résurrection de Christ, c'est véritablement une folie pour le monde. Nous passons pour des fous. Bien sûr. C'est inacceptable. Il y a une volonté de la foule, du monde, d'escamoter la valeur du salut. Le message de la croix est une folie et le monde ne peut, hors d'une révélation, par le Saint-Esprit, le recevoir. Alors il est tentant de vouloir diluer le message de l'Évangile. Et je dirais même, il est tentant pour l'Église, afin de grandir, je sais que je vais en choquer certains d'entre vous, mais c'est vraiment quelque chose que je pense, il est tentant pour l'Église de diluer aussi son message, de gommer les aspérités, les choses trop difficiles, afin d'attirer le monde avec un message qui soit acceptable, voire lénifiant. Or, le message de l'Évangile, c'est un message de vie et de mort. Tu veux échapper à la mort et à la mort éternelle, et il n'y a une seule porte. Elle est étroite, mais elle est là. C'est Jésus-Christ. Alors évidemment, on peut proposer quelque chose de confortable, de peu exigeant. Mais est-ce qu'il n'en est pas aujourd'hui pour nous de la même question qui se posait pour Jean-Baptiste avant que Christ ne vienne? C'est un baptême de repentance. Oh non, c'est un peu... Vous croyez que la repentance, c'est nécessaire? En plus, il faudrait se convertir. Et en plus, il faudrait vivre une vie nouvelle, conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un peu excessif comme message? La foule est présente lors de l'arrestation de Christ. Elle exprime son désir qu'il soit mis à mort et qu'un brigand, Barabbas, soit libéré à sa place. Elle accompagnera Jésus jusqu'à Golgotha pour l'agonir d'injures et de mépris. La foule, le monde qui aujourd'hui a la même attitude pour Christ, qui décrit, vocifère, injurie celui qui est venu aimer et se donner. Il y a plus que de l'indifférence vis-à-vis de Jésus dans le monde. Il y a de l'opposition parce que c'est l'œuvre de l'adversaire de dénigrer et de faire en sorte que le message du salut ne soit pas posé dans toute sa clarté. Comme au jardin d'Éden, la voix de Satan séduit l'être humain qui se veut devenir comme Dieu, seul et sans lui. Il y a, dans Matthieu 26, 59, j'ai été assez curieux en relisant les évangiles de voir des témoins comme cela, qui étaient présents. Il y avait la foule, ils étaient témoins, ils sont passés à côté, ils étaient dans l'opposition. Et dans Matthieu 26, 59, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, il en vint deux. qui dire celui-ci, il a dit qu'il peut détruire le temple. Il a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se lève et s'adresse à Jésus et lui dit « Tu réponds rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Il y a 2 témoins. Ah oui, mais pas de 2 témoins qui disent n'importe quoi. J'ai toujours été un peu étonné de ce petit passage parce que les principaux sacrificateurs, entre autres Anne et Caïphe, cherchent des faux témoignages. Hein, ils le cherchent, c'est écrit. Tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en ont pas trouvé, même s'il y a quelques faux témoins qui se sont présentés. Et je me suis dit, mais pourquoi alors ils n'ont pas pris ces faux témoins? Pourquoi ils ne les ont pas utilisés? Et en fait, il est dit qu'ils n'ont pas utilisé ces faux témoins, mais il y en a 2 qui sont venus et qui ont dit, oui, on l'a bien entendu, il a dit, je peux détruire ce temple, le temple de Dieu, le rebâtir entre... Ce n'est pas des faux témoins, ce qu'ils disent est vrai. Ils ont entendu ça, mais ils n'ont pas entendu l'interprétation que Jésus a donnée à ses disciples. Ils ne parlaient pas du temple, ils parlaient de son corps. C'est ce que dit, entre autres, l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Il leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » 3 jours. Et il parlait de son corps. Ouais. Alors ces 2 témoins, ils disent la vérité. Ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ont compris. Les esprits religieux savent, entre guillemets, respecter la loi. Parce que c'est la loi qui dit qu'il faut y avoir, qu'il faut 2 témoins pour condamner quelqu'un. Et en fait, dans la Torah, ou Deutéronome, chapitre 19, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est le Deutéronome qui dit ça. Et vous voyez, quand les religieux cherchent comment condamner Jésus, ils disent, il y a des faux témoins, mais est-ce qu'on va les utiliser, etc. Et vous avez 2 qui arrivent. 2 ! Chouette ! On a le nombre. On peut y aller. Et les 2 témoins disent, voilà ce qu'il a dit. Et vous savez quoi ? C'est l'esprit religieux qui règne à ce moment-là, qui respecte la loi pour sembler être dans la justice des choses de Dieu. Et ces 2 témoins qui apparaissent, les religieux se disent, maintenant, on peut le condamner. Ils n'ont pas la capacité de le tuer, mais peuvent le condamner pour l'emmener chez Pilate, qui seul, en tant que procurateur romain, a le droit de mettre à mort, de condamner à mort. Alors ces témoins, dont les paroles sont retenues à charge contre Jésus, ils répètent bien ce que Jésus a dit, mais ils répètent sans comprendre le sens des paroles de Jésus. Nul ne peut accuser ces témoins d'être malhonnêtes, mais ils participent à la condamnation de Jésus parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui est Christ et de son œuvre. Le Saint-Esprit ne leur a pas donné les clés pour comprendre l'œuvre de Christ. Et je crois que parfois, en tant que chrétien, il nous arrive, par esprit religieux, de ne pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie ou que l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie. Gardons-nous d'un esprit religieux qui interprète les choses et qui fait qu'on va condamner des choses. Et puis, on le fait sans que ce soit l'Esprit Saint qui agisse en nous. Ces témoins ne rapportent qu'une partie des propos de Jésus, comme ceux qui ne veulent pas entendre sont fermes à la révélation de l'Esprit Saint. Combien d'hommes et de femmes entendent, mais ne comprennent pas le mystère, la folie de l'Évangile. Gardons-nous de ces fermetures et du cœur et de l'esprit aux choses de Dieu. Il y a un autre témoin qui est privilégié, c'est Pilate. Oh, s'il y en a un qui est aux premières loges, c'est bien lui. Et Pilate, il voit arriver Jésus envoyé par Anne et Caïphe qui ont condamné, jugé. Mais comme ils ne peuvent pas mettre à mort, c'est à Pilate de le faire. Eux, ils se lavent aussi les mains, ils disent « Voilà, on a fait notre boulot, à toi de faire le tien. » Il a été préfet de Judée de 26 à 36 après Jésus-Christ, pendant 10 ans, avant d'être renvoyé à Rome pour s'expliquer devant l'empereur. Et donc, Ponce Pilate, vers qui Jésus a été envoyé pour être jugé, l'a interrogé, mais sans trouver aucun motif de condamnation. Relisez toutes les interventions de Pilate, c'est très, très étrange comment cet homme, on le circonscrit fortement autour du fait qu'il se lave les mains, il se dit « Bon, ben voilà, c'est vous qui décidez, etc. » Mais on a l'impression qu'il y a un combat intérieur en lui, entre l'application de la justice humaine, romaine, et puis l'étude du cas qui lui est exposé. Lorsque il est écrit, Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Évangile de Jean, chapitre 19, verset 4. Cependant, la pression des prêtres et du peuple s'accentuant, Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Alors, on sait ce que ça veut dire « se laver les mains » aujourd'hui. Dans l'évangile de Luc, l'évangéliste nous retrace un épisode qui ne se trouve pas dans d'autres évangiles. C'est l'amitié entre Pilate et Hérode, alors roi de Judée. Au moment du procès de Jésus, il est dit « Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui » en parlant de Jésus. « Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante » dans un autre on dit en pourpre « et le renvoya à Pilate » ça ce sont les sacrificateurs. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis alors qu'auparavant il y avait de l'austérité. Ils ne pouvaient pas se sentir. Ça fait penser à quelques hommes politiques qui peuvent exister aujourd'hui. Hein ? Pilate est devenu ami d'Hérode parce que quelque part, il n'a pas su prendre parti, ne pas se décider et ne pas décider qui est Jésus pour lui. Il le décide coupable alors qu'il est innocent et il le sait. Il le sait innocent mais ne prend pas position. Il représente par excellence l'homme qui sait ce qui est juste mais ne veut pas s'engager. Il préfère préserver sa position, ses intérêts. Est-ce que ce n'est pas l'attitude que nous pouvons aussi avoir lorsque nous avons à prendre position dans notre vie, lorsque nous savons qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu, lorsque nous avons à défendre la place de Christ dans notre vie. Vous savez, il y a des fois, on peut être des petits Pilates. Oh, pas au point de condamner Jésus, mais de ne pas faire ou de ne pas accomplir la justice de Dieu dans notre vie. Oh, on est prêt à remarquer là où les frères et sœurs n'accomplissent pas la justice de Dieu dans leur vie. Hein. C'est tellement plus facile et confortable. Mais dans notre vie, qu'est-ce qui est juste ? Il y a les soldats qui sont aussi témoins. Après avoir crucifié Jésus, ils prennent ses vêtements, ils en font quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prennent aussi sa tunique, cette fameuse tunique qui est d'un seul tenant, sans couture, du haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, toujours dans l'évangile de Jean, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplit, là encore, cela arriva afin que s'accomplit la parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Et le partage des vêtements, en fait, c'est une coutume qui a été longtemps établie un peu partout dans le monde à l'époque. Et c'est même une loi romaine. Ça s'appelle le De Bonis Damatorum. Pour ceux qui notent, je vous le redis ou bien ? De Bonis Damatorum, ça veut dire que c'est une loi romaine qui dit « Le bourreau, ceux qui exécutent, ont le droit de se partager les habits des condamnés. C'est leur petit bénéfice compte tenu de la difficulté à accomplir ce genre de tâches. » Et c'était quelque chose qui se produisait aussi en France. Hein, lorsque les bourreaux, accomplissaient leur œuvre, comme on dit, eh bien, ils avaient le droit de récupérer les affaires du mort. Alors, si cette scène fait partie du récit de la Passion, et elle est plus que vraisemblable, puisqu'il y a une loi romaine qui en parle, elle a aussi une visée théologique manifeste, qu'elle correspond notamment au psaume 22-18, « Ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré ma robe au sort. » Et il est très probable que les bourreaux aient dépouillé Jésus de ses habits avant la crucifixion, car la dénudation est une humiliation supplémentaire. Il faut savoir que cette scène, ce n'était pas simplement une scène de violence, c'était aussi une scène d'humiliation. Christ a été humilié au plus profond de son être pour nous. Il n'a pas seulement souffert. Est-ce qu'on imagine seulement que Christ qui a été humilié, c'est celui qui a dit que la lumière soit et qui a créé l'univers? C'est cette parole-là. Et c'est cette parole créatrice incarnée qui a été humiliée au point d'être accrochée, uniquement vêtue d'un bout de tissu, aux yeux de tous. Il y a un évangile apocryphe qui est l'évangile de Pilate. Il y a un évangile, il y a plusieurs évangiles apocryphes, dont celui de Thomas. Et l'évangile apocryphe de Pilate parle de cette scène-là en parlant de ce bout de tissu unique qui recouvrait la nudité. Et c'était vraiment un vêtement minimaliste pour vraiment humilier celui qui était accroché au bois. Et là, Jean parle de 4 soldats. Parce que c'était l'escouade, le peloton d'exécution dans les règles romaines. Il fallait 4 soldats pour garder ou assister à cet événement. Il fait référence à ces juifs de l'époque et à cet exercice de répartition. La robe sans couture, pour beaucoup d'exégètes, parle, je vous laisse là comme une pensée, cette robe sans couture unique représente l'Église pour certains, en disant elle est une, indivisible, quel que soit le nom qu'elle porte, quel que soit le nom qui est sur sa porte. Mais cette Église-là, en Christ, tous ceux qui sont en Christ sont indivisibles et font partie de son peuple, de sa famille. Alors, il y a d'autres témoins, je vais juste les citer sans aller plus loin. Il y a Nicodème. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Nicodème. Vous savez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, c'est ce vieillard qui voit de nuit, qui faisait partie des autorités juives, et qui vient demander à Jésus un éclaircissement de nuit. C'est bien de venir voir mieux la nuit. On y voit toujours mieux. Il vient de nuit pour savoir... quelle est la bonne direction à donner à sa vie. Et il dit à Jésus, nous savons, au lieu de dire « je », nous autres, très vague, hein, nous savons que tu es quelqu'un qui vient de Dieu à cause de ce que tu fais. Le « nous », c'est une protection pour ne pas s'impliquer, pas choisir individuellement, mais n'empêche qu'il vient au chapitre 3 pour parler à Jésus. Tu es le docteur, le rabbi, hein, il lui donne le titre et tout. Mais en même temps, il n'est pas capable de dire, lui, ce qu'il sait. Nous savons de toi que tu es quelqu'un qui sait les choses de Dieu. Mais lui, il est docteur de la loi et il doit avouer qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quelle est la bonne route, le bon chemin. Alors, à un moment donné, il va entendre Jésus lui dire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et cet homme, ce vieillard, on le retrouve au moment de l'ensevelissement, quand Joseph d'Arimathée réclame à Pilate le droit de décrocher le corps de Jésus, il fera cela, il emportera le corps dans le tombeau avec l'aide de Nicodème. C'est-à-dire que ce vieillard qui venait de nuit va se retrouver dans ce jardin, là aussi de nuit, pour emporter le corps. Cet homme a fait tout un chemin intérieur, une confrontation à celui, et il est né de nouveau. On le verra. Il y a peu de textes ensuite de Nicodème, mais on sait que tout à coup, il est passé de l'autre côté avec Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela, de se dire que ce vieillard a fait ce chemin en Christ? Et puis je terminerai avec d'autres témoins qui sont des témoins tellement extraordinaires. Dans les 4 évangiles, ces témoins-là ne sont pas présentés de la même manière, parce que chaque évangile essaye de donner un éclairage. Mais ces témoins, c'est les femmes. relisez les récits de la résurrection. Les premiers témoins, c'est des femmes. Alors, il y a Marie-Madeleine qui est souvent citée, celle qui avait oint Christ et parfumé ses pieds et essuyé ses pieds avec ses cheveux. Il y a une certaine Jeanne, dont on ne sait pas trop. Il y a une autre Marie. Et il y a plusieurs femmes qui assistent à la résurrection et qui seront les témoins. Je voudrais bien qu'aujourd'hui, les autorités des églises m'expliquent pourquoi ces premiers témoins qui ont parlé à Pierre et qui l'ont fait sortir de sa cachette où il s'était réfugié, comment on pourrait dire aujourd'hui que les femmes n'ont pas un ministère pour annoncer la bonne nouvelle? C'est incompréhensible. Dieu a choisi les femmes. J'avais un ami, pasteur, qui me disait « Oui, mais quand on connaît les femmes, la nouvelle se répand beaucoup plus vite. » Mais sérieusement, Dieu a choisi les femmes alors que les hommes étaient repliés chez eux dans un esprit de défaite, de perte, de séparation. Elles sont allées au jardin et c'est là qu'elles ont reçu la révélation de la résurrection. Alors, quels témoins sommes-nous dans notre foi, dans notre vie? Est-ce que nous sommes de temps en temps gagnés par l'esprit de la foule, du monde, et que nous diminuons l'impact du salut et de la personne et de l'œuvre de Christ? Est-ce que nous pouvons être aussi parfois des Pilates qui se lèvent les mains, qui se lavent les mains en se disant « Oh, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas ». Est-ce que nous pouvons être des Nicodèmes? Est-ce que nous pouvons être des femmes aussi, y compris pour les hommes, habités par ce courage, cette volonté de continuer la route? Je vous laisse juste avec ce message concernant la résurrection. Pâques, il y a des témoins ici. Seigneur, donne-nous de regarder tes écritures avec la disponibilité que donne ton Esprit Saint. C'est toi qui, en quittant ce monde, a dit « Et vous serez mes témoins ». Oui, Seigneur, je veux être ton témoin. Je veux pouvoir porter ce message de folie que tu as vaincu la mort, que tu es ressuscité et que le monde entier repose sur ce salut que tu as accordé et qu'il appartient à chacun de se déterminer. Mais je crois aussi, Seigneur, que ton Église a besoin tout à nouveau d'être habitée par ce message exigeant du salut. Garde-nous, Seigneur, de vouloir faire rentrer le monde en élargissant les portes de nos églises. Donne-nous d'avoir, avec la même tendresse que toi, la même compassion, la capacité de te dire et de dire ton salut. Cette croix plantée à Golgotha, la souffrance et l'humiliation que tu as acceptées, mais aussi la puissance de résurrection que tu donnes à chacun de ceux qui s'approchent de toi avec foi. Amen.